Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour Anissa, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. La France bouge même pendant l'été. Et chaque jour entre 13h et 14h, nous découvrons des talents, des entrepreneurs qui osent, qui se lancent dans tous les domaines. Ils construisent le monde de demain et vous, vous êtes les acteurs de ce changement. Le Ségur de la santé est sur le point de s'achever. On l'a vu, la crise a bousculé le modèle de l'hôpital. Il est temps de repenser la façon de travailler des soignants, la prise en charge des patients, l'aménagement des espaces. À quoi va ressembler l'hôpital de demain ? Gestion des urgences, amélioration du bien-être des patients, c'est le dossier du jour. On en parle, ce sera juste après le pitch d'un entrepreneur qui se lance, challengé par notre coach. Et bien sûr, la solution, c'est ça, la France qui bouge, même pendant l'été.
Europe 1.
La France bouge à mes côtés pendant toute l'émission. Sophie Echen de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Et Sylvain Lambert, associé chez PwC. Bonjour Sylvain.
Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Bonjour
vous Sylvain. Êtes notre coach de la semaine. Vous challengez, vous bousculez un petit peu les entrepreneurs, les associations qui passent par La France bouge. Dans chaque crise, on le voit, hein, chaque jour dans La France bouge, il y a une opportunité, on se lance et on le voit. Comme avec vous, bonjour Alexandre Baudet.
Bonjour et merci de me recevoir.
Merci à vous. Vous êtes le fondateur d'Odoa, O-D-O-A. C'est une application que vous avez lancée, vous aussi, pendant le confinement. Elle permet de trier ses photos, parce que je suis sûre que nous sommes tous concernés autour de la table. Combien de photos dans vos téléphones ?
Là là. Des milliers.
Hein, ouais. On parle de milliers. Mmh. Eh bien, Odoa, c'est peut-être la solution. Alexandre, vous allez tout nous raconter. Vous avez 1 minute 30. C'est parti. Alexandre, on vous écoute.
Oui, donc Odoa, c'est une application de tri photo qui est disponible gratuitement sur iPhone. C'est une idée qui nous est venue il y a quelques mois avec mon frère Clément, donc qui lui termine ses études d'ingénieur informatique et qui est au passage à la recherche d'un stage. Et donc tout ça, c'était un constat, c'est qu'il est aujourd'hui tellement simple de prendre des photos avec son téléphone qu'on les accumule. On a vu 3-4 000 photos dans sa pellicule qu'on ne prend pas le temps de trier. Pourquoi ? Parce que l'expérience de tri, elle est très chronophage et fastidieuse, d'où l'idée de l'application donc Odoa qui, comme son nom l'indique, permet de trier les photos d'un simple geste du doigt. Donc j'ai coutume de dire que c'est un peu le Tinder du rangement photo, avec un balayage du doigt vers le haut pour mettre la photo à la corbeille, un balayage du doigt vers le bas pour classer la photo dans un album. Et vous pouvez également avoir des statistiques de tri sur l'application. Donc on a de très très bons retours, beaucoup de demandes également sur Android, preuve qu'elle répond à un fort besoin. Donc si vous prenez beaucoup de photos, allez-y foncer, elle vous permettra de libérer un peu d'espace sur vos téléphones, et ceci de manière totalement gratuite. Notre objectif, c'est vraiment de la diffuser et d'imaginer ensuite des déclinaisons en lien avec des futurs partenaires. Donc si vous voulez plus d'infos, contactez-nous, ça se passe sur odoa.info@gmail.com.
Ça y est, vous avez fini, Alexandre ?
J'ai fini.
Bon, bah on est allé en dessous de la minute 30, mais merci pour votre pitch. On l'a compris, donc Odoa nous permet de trier nos photos. Moi, je n'ai pas hyper bien compris la différence avec ce que me permet de faire mon téléphone, mais je laisse Sylvain aller vous poser la première question.
Bah, ça allait être la deuxième, mais la première, c'est, j'ai compris, c'est gratuit. C'est un but de rémunération pour vous ? C'est un business ou c'est une offre à la société en général ? C'est-à-dire, comment vous gagnez votre vie avec ?
Alors l'objectif, c'est vraiment de la diffuser dans un premier temps et pour ensuite être, par exemple, contacté par des partenaires et imaginer des nouvelles fonctionnalités, des déclinaisons de l'application.
Mais c'est qui les partenaires ? C'est qui ?
Il y a tous les partenaires qui utilisent aujourd'hui le traitement de l'image. Donc ça peut être des sites d'impression photo qui pourraient être intéressés par le concept pour envoyer très rapidement des albums à l'impression.
Par exemple, Cheers et tout ça, là ? Ce genre de partenaires ?
Tout à fait. On a également des demandes dans le domaine hospitalier parce que la photo est de plus en plus présente aujourd'hui dans la société et le tri des photos dans ce domaine, en tout cas, c'est fait aujourd'hui de manière artisanale. Donc, il y a plein de choses à imaginer. Ça peut aussi être dans des métiers créatifs pour des architectes, par exemple, qui auraient besoin de classer ou de taguer des photos. Donc, encore une fois, l'application, elle en est vraiment à ses prémices. Tout reste à faire. Et il y a plein de choses à faire, à imaginer avec des collaborations.
Alors, comment vous vous différenciez par rapport à ce que me permet mon portable, mon smartphone ? Moi, j'ai un smartphone, j'ai plus de 5000 photos dedans. Si je prends le temps, je peux aussi les mettre à la poubelle et les trier. Donc, comment vous allez pouvoir vous différencier avec votre solution ? C'est ça qu'il faut mettre en avant, je pense.
Alors, l'application, elle propose une expérience totalement différente de celle qu'on trouve sur iPhone. Ça va être une expérience qui est très simple et très ludique à utiliser. parce qu'on va pouvoir, d'un simple swipe avec le doigt, jeter très facilement sa photo à la corbeille, la classer dans différents albums, avoir des statistiques.
Ah, et on la met dans un album, d'accord, par thème, voilà. J'imagine.
Voilà, et là où l'application iPhone, il va falloir sélectionner à la main plusieurs photos et tout en confirmant la sélection des photos, donc c'est pas forcément
d'accord.
L'idéal.
C'est beaucoup plus efficace et intuitif.
Et vous en êtes
Sylvain.
Où aujourd'hui ? Donc là, on comprend, vous êtes au lancement. C'est quoi la prochaine étape pour vous ? Vous cherchez des fonds ? Vous cherchez à vous faire connaître pour que des partenaires vous contactent ?
Comment peut-on vous aider, Alexandre ?
Alors déjà, en m'invitant aujourd'hui pour justement partager et puis faire connaître l'application.
C'est bon ça.
Et donc, on attend ensuite des potentiels contacts de futurs partenaires qui pourraient être intéressés par l'application, donc, comme je disais.
Donc, des clients. Vous attendez des clients. Ce n'est pas des partenaires, des clients qui viennent chez vous et vous essayez de faire quelque chose ensemble.
Oui, tout à fait. Ouais. Imaginez des nouvelles fonctions, des déclinaisons d'applications dans différents services.
Et combien de gens utilisent l'application aujourd'hui, même si c'est très récent?
C'est
on
hyper
peut l'entendre.
Récent, c'était pendant le confinement.
Alors aujourd'hui, on approche des 20 000 téléchargements, donc il y a un fort succès uniquement sur iPhone.
Bah, je vais la télécharger immédiatement.
Mais vous avez beaucoup de photos. Vous avez beaucoup de photos, vous, Sylvain.
Oui, aussi quelques milliers.
Sophie, vous avez une question.
Est-ce que ça marche avec tous les formats? Est-ce qu'on peut aussi classer des vidéos comme ça dans des sortes de tiroirs?
Alors, pas pour l'instant. Encore une fois, l'application, elle est sortie il y a quelques semaines. On travaille dessus justement et on cherche à intégrer de nouvelles fonctionnalités, donc comme le tri des vidéos par exemple.
Anissa,
si jamais on supprime l'application un jour, on veut plus de cette application, on n'a plus de place sur notre téléphone, on ne perd pas toutes nos photos.
Vous en faites quoi? On ne les perd pas, mais vous en faites quoi aussi?
Et vous en faites quoi? Ouais, aussi.
Alors cette application est totalement gratuite, il y a aucune arrière-pensée derrière, il y a aucune utilisation des données. Donc vous supprimez l'application, vous ne pourrez plus les trier avec l'application, mais derrière, nous, on garde absolument...
Mais on garde toutes nos photos.
Tout à fait, oui. Sauf que c'est des photos que vous avez supprimées avec l'application, bien entendu.
Oui, évidemment. Et vous ne stockez pas nos photos perso?
Non,
en aucun cas. Il n'y a pas d'arrière-pensée, vous nous l'avez dit. Donc, Alexandre Baudet, ça s'appelle Odoa, O-D-O-A, une appli qui permet de trier ses photos. Ça s'adresse aux particuliers, mais aussi, et on l'espère pour vous, à de futurs partenaires. Merci à vous.
Il est 13h19.
Europe 1.
Un problème, une solution. Aujourd'hui, une start-up qui réinvente la location de voitures longue durée. Et on en parle avec Sophie Echen. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec Elisabeth Assayag et toute l'équipe. Et place à la solution du jour, Elisabeth.
Et oui, la solution du jour avec vous, Sophie Echen. Vous allez aujourd'hui nous aider à louer une voiture grâce à une start-up qui réinvente les locations longue durée des voitures, hein, le fameux leasing.
C'est ça, et ça s'appelle FinDrive. Et selon cette jeune entreprise, les acteurs du leasing traditionnel ne proposent pas de solution adaptée aux nouvelles attentes des consommateurs, à savoir posséder moins mais utiliser plus. Alors FinDrive réinvente la location via un système à la carte qui permet aux clients de choisir un abonnement entièrement personnalisable. On choisit son véhicule évidemment, mais aussi l'assurance, le kilométrage entre autres. L'entretien et l'assurance sont compris. Le parti pris de FinDrive, c'est de dire que désormais, on n'achète plus un bien, mais on paye une prestation de service. Fondée en 2017, cette start-up 100% française possède actuellement une flotte de 450 véhicules. La majorité sont hybrides. Pour l'instant, elle est majoritairement implantée en région parisienne, dans la petite et la grande couronne. À terme, l'objectif est de s'implanter dans les zones périurbaines des grandes métropoles françaises autour de Lyon, Lille, etc. Alors pourquoi FinDrive se différencie des entreprises de leasing classiques? Eh bien car elle propose une solution alternative 100% digitale. Et cette solution, c'est vous qui l'avez cofondée, Pascal Gozon. Bonjour.
Bonjour.
Donc l'idée, c'est de combler l'absence d'une solution intermédiaire entre engagement et location courte durée.
Absolument. Aujourd'hui, le paysage de la location automobile se décompose en deux. Vous avez d'une partie les loueurs courte durée que vous avez l'habitude de connaître. Hein. C'est toutes les agences de location qui sont spécialisées surtout dans les véhicules pour les touristes. Et vous avez les acteurs de la location très longue durée ou les banques qui vous financent un véhicule sur 3, 4, 5 ans. Entre les deux, il y a un vide. Et c'est ce vide qu'on a décidé de combler en créant FinDrive. Et FinDrive propose quoi? FinDrive propose une solution de leasing sous forme d'abonnement, tout inclus. Donc vous avez le loyer de votre véhicule, l'assurance, l'entretien, comme vous l'avez souligné, sur un véhicule de votre choix avec la loi de roulage, c'est-à-dire le kilométrage qui vous convient. Ça peut être 1000 km par mois, 2000, 3000, donc on s'adapte. Et la grande différenciation de FinDrive par rapport aux autres acteurs, c'est que nous, on a décidé de s'adapter aux consommateurs qui subissent des événements de vie qui sont imprévisibles. 3 ans, ça peut être très long, et 4 ou 5 ans, c'est encore plus
long.
Il peut
tout se passer.
Absolument. Que ce soit des événements familiaux, type naissance d'un enfant, divorce, etc., ou des événements professionnels, type déménagement ou changement de boulot ou perte d'un emploi. Et dans ce cas-là, il vous faut réagir très vite, c'est-à-dire en adaptant votre véhicule ou parfois en le rendant. Et c'est cette différenciation qu'on a décidé d'apporter sur le marché, c'est-à-dire qu'avec FinDrive, aujourd'hui, vous avez des fenêtres de sortie de votre contrat que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire que vous en avez marre de votre véhicule, bah vous pouvez le changer à des fenêtres prédéterminées.
C'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément les 3 ans qui sont initialement, c'est un peu prévu dans chaque contrat de location longue durée.
Absolument.
Là, au bout de 6 mois, je peux le changer grâce à vous.
Et de façon simple, sans...
De façon simple, alors il y a un petit préavis de quelques semaines à respecter quand même. Ouais. Pour qu'on puisse...
Combien environ ?
Environ 3.
Ouais.
Qu'on puisse s'adapter, qu'on puisse vous proposer également ce qu'on peut avoir en parc pour que ça comble vos besoins. Mais il n'y a plus, aujourd'hui, la seule façon, dans un vrai leasing traditionnel, qui soit bancaire, la seule façon d'en sortir, c'est de revendre sa voiture ou d'attendre les 3 ans ou tout rembourser.
Oui.
Ce qui est la pire des solutions.
Mais pourquoi les autres n'y ont pas pensé avant ?
Parce qu'aujourd'hui, ce sont des acteurs qui sont des purs financiers et qui n'ont pas la force de frappe opérationnelle que nous, on a décidé de construire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un leaser traditionnel ne sait pas relouer un véhicule déjà utilisé. C'est toujours un véhicule neuf. Et une fois que vous rendez au bout des 3 ans, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le vendre. Mais il ne va jamais relouer un véhicule d'occasion. Pourquoi ? Parce que ça nécessite de le remettre en état,
et
de
vous,
le nettoyer.
Oui.
Et nous, oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie de la société qui est évidemment financière, parce qu'il faut financer la flotte de véhicules, mais on a une grosse partie opérationnelle qui se charge de la restitution des véhicules et de la retransformation en véhicules qui soient louables pour des nouveaux clients. Donc ça passe par par des remises en état, parfois avec des véhicules qui sont un peu rayés, etc., qu'il faut réparer, par une révision mécanique qui est faite par nos soins, par un lavage du véhicule, et hop, le véhicule, il peut repartir à la route vers un nouveau client.
Donc quand je vais chez vous, je peux accéder à un véhicule neuf, je débarque pour la première fois, de mon choix.
Absolument.
Et après, il y a une acceptation de dossier, j'imagine, comme avec un financier
correct,
je peux ou je peux pas.
Exactement, une acceptation du véhicule, parce qu'à la différence d'un leaser traditionnel, on peut pas faire n'importe quoi. On ne fait pas de véhicule très extravagant. Pourquoi ? Parce qu'on prévoit toujours la possibilité éventuelle que ce véhicule doit être relouable pour un autre client.
Pas de Ferrari.
On peut en faire, mais il faut qu'elle soit classique.
Mais par contre, il y a aussi, je peux accéder à un véhicule d'occasion, ce que je comprends.
Absolument.
Par exemple, j'ai un incident de vie, j'ai pris une Ferrari, j'ai perdu mon job. J'ai dit, mais il me faut toujours une bagnole pour emmener les enfants à l'école.
C'est
et
ça.
Vous me proposez une Clio qui a été reprise dans le parc.
Exactement.
Non, mais ça marche.
Exactement.
Ça marche.
Au niveau des prix, vous alignez sur vos concurrents ?
Alors, on est un tout petit peu plus cher que nos concurrents. Pourquoi ? Parce qu'on fait payer la flexibilité à nos clients. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe sur le marché, c'est que les clients sont prêts à payer la flexibilité. D'ailleurs, pas que dans l'automobile. Hein. On a des espaces de coworking qui se distinguent par des prestations de services qui sont un peu plus chères qu'un bail traditionnel dénudé, mais auxquelles il faut ajouter, par exemple, toutes les prestations type internet, nettoyage, etc. Là où nous, on fournit un package qu'on appelle en anglais « one-stop shop », c'est-à-dire que c'est une prestation de service qui inclut tout. Le loyer, l'entretien du véhicule, l'assurance. Donc, facialement, on est plus cher que nos concurrents quand on regarde purement la prestation financière qui est fournie dans les deux cas. Mais globalement, le consommateur s'y retrouve parce qu'il n'a qu'un seul interlocuteur et surtout, il a un gros gain de temps et une flexibilité qui, aujourd'hui, sous-monétise.
Sophie ?
Et vous avez quand même... vous êtes un loueur de véhicules multimarques. Pour l'instant, on reste quand même dans une gamme premium.
Absolument.
Quel type de voiture on peut trouver chez vous ?
Alors, on fait toutes les grandes marques généralistes allemandes, Volkswagen, BMW, Mercedes. On va vers des véhicules un peu plus haut de gamme, type Porsche, surtout sur des SUV, des nouveaux SUV hybrides. C'est un choix marketing de notre part, à la fois pour assurer notre clientèle.
Voiture électrique ?
On en fait. Beaucoup d'hybrides pour le moment. On va vers de l'électrique de plus en plus. On est aussi dépendant de l'infrastructure publique pour les bornes de recharge qui se développent.
C'est pas encore totalement ça.
C'est pas totalement ça. C'est en train d'y aller, mais pas encore. Mais oui, il y a une grosse mutation de l'hybride. On va vers un abandon du diesel qui est assez clair. Mais on va de plus en plus vers de l'hybride et on commence à aller vers de l'électrique.
Combien de clients aujourd'hui ? Ça, taille.
Environ autant de clients que de véhicules, donc un peu plus de 400.
Et sur des particuliers, vous travaillez avec des entreprises ?
On travaille beaucoup avec des sociétés, des petites sociétés. C'est des sociétés en général de moins de 10 salariés. On va commencer à ouvrir le particulier bientôt.
Aujourd'hui, il n'est pas ouvert. Donc
pour l'instant, vous êtes juste à destination des entreprises de moins de 10 salariés ?
Alors, c'est le cœur de cible. On peut tout faire, en vrai. On peut faire des très grosses sociétés.
Et vous pouvez faire des particuliers ?
On ne le fait pas encore. Mais
c'est
bientôt. Normalement, c'était prévu juste après le Covid. Bon, là, ça a été retardé.
Septembre ?
Ouais, je pense à la rentrée de septembre.
Ça s'appelle FinDrive. Merci à vous, Pascal Gauzon. Vous êtes donc une nouvelle forme de location de voitures longue durée. Merci à vous.
Merci.
Il est 13h28. Europe 1. Le Ségur de la santé, ça va bientôt s'achever, hein, dans les prochains jours. On l'a vu, la crise a bousculé le modèle de l'hôpital. Il est peut-être temps de repenser la façon de travailler des soignants, la prise en charge des urgences. À quoi va ressembler l'hôpital de demain ? Eh bien, c'est le dossier du jour et on en parle dans un instant. À tout de suite. La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Elisabeth Assayag et le dossier du jour, Elisabeth. Et oui, pendant la crise, de nombreux projets ont vu le jour par-ci, par-là. Des projets dans des hôpitaux. Les soignants se sont mobilisés et pour les soutenir et pour perdurer cette dynamique enclenchée, un fonds de soutien est né. Ça s'appelle Après. Bonjour Clémence Marty-Chastan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la directrice de la stratégie et la transformation à la PHP qui lance donc ce fonds, hein, le fonds Après. Avec ce fonds, vous financez d'abord quel type d'action ? Est-ce que vous avez beaucoup récolté en plus ?
Alors oui, merci beaucoup. En effet, nous venons de lancer ce fonds Après. Donc c'est un appel à projet, hein, lancé avec l'ambition d'une démarche très participative. L'idée, c'est de faire remonter des projets qui sont portés par les professionnels de la PHP, qui à la fois portent ces projets, mais également sont dans le comité de sélection qui se tiendra très prochainement.
Donc voilà, ça a été lancé début juin, ça s'est terminé le 30, et c'est maintenant, hein, que vous êtes en train de sélectionner avec le comité se réunit en ce moment.
Exactement, le comité se réunit en cette fin de semaine et tout le comité de sélection est mobilisé pour évaluer les nombreux projets que nous avons remontés, qui sont au nombre de plus de 350 projets, hein, donc ça montre le fort intérêt pour ce dispositif, avec des projets autour de deux axes. D'une part, des projets pour améliorer le quotidien des professionnels eux-mêmes et des projets pour transformer la prise en charge de nos patients.
Voilà, améliorer le quotidien et améliorer la prise en charge. Donc ce sont les deux thématiques qui ressortent le plus. Alors après cette première vague d'appels à candidature, elle est dotée de 7,5 millions d'euros. Et c'est ça qui...
Exactement. L'idée, c'est de pouvoir donner à nos professionnels la possibilité d'amorcer leurs projets, de les expérimenter.
Ils viennent d'où, ces fonds ?
On a vu à quel point on a pu mesurer leur inventivité, leur capacité d'initiative pendant cette crise Covid. Et nous souhaitions pouvoir leur donner la possibilité de concrétiser cet élan, de soutenir cette dynamique pour pouvoir ensuite, avec cet amorçage, expérimenter leurs projets et pourquoi pas aller chercher d'autres financements pour faire perdurer ceux-ci s'ils sont probants.
Les fonds, 7,5 millions d'euros, viennent d'où ?
Ce sont les fonds de la PHP.
Bah écoutez, en tout cas, merci. Hein, ça donne de l'espoir, hein, d'entendre une telle mobilisation. Hein. Merci Clémence Marty-Chastan. Donc, on l'a entendu, hein, y a, dans les thématiques qui ressortent le plus, il y a l'améliorer la prise en charge des patients, améliorer aussi la qualité du fonctionnement du travail des professionnels. Et c'est ce qui se passe avec vous, professeur Thierry Pellassia. Bonjour.
Bonjour Madame Assayag.
Merci d'être avec nous. Vous êtes urgentiste et pendant la crise, au plus haut de la crise, hein, parfois quand on appelait le SAMU, il fallait attendre jusqu'à 45 minutes d'attente au 15 pendant la crise du coronavirus. Et de ce constat est né Régul'Aid. Et vous en êtes le fondateur.
Alors l'un des fondateurs,
puisque vous êtes urgentiste.
Absolument, médecin urgentiste à Strasbourg, puisque Régul'Aid est un outil qui a été créé par une communauté de professionnels, parmi lesquels des soignants, mais aussi évidemment des développeurs, des gestionnaires de projets et des designers. Alors Régul'Aid, effectivement, initialement, avait principalement pour objectif de limiter le temps d'attente des patients qui appelaient pour des questions liées au Covid, puisque comme vous l'avez souligné, on a été soumis à un afflux qui n'avait pas forcément été anticipé parce que la crise, tout le monde l'a géré un peu à vue, qui a généré chez nous à certains moments une augmentation de 250% des appels par rapport à ce qu'on a quotidiennement. Donc très rapidement, une plateforme spécifiquement dédiée à la gestion de ces appels a été mise en place.
Et quand je dis 45 minutes, parfois c'était même une heure, deux heures d'attente. Hein.
Alors ça pouvait, mais sur des situations qui au préalable avaient été bien identifiées comme ne relevant pas évidemment de l'urgence et en particulier de l'urgence vitale, puisqu'il y avait toujours un premier niveau de tri avec une réponse qui en moyenne se fait sur des temps d'attente inférieurs à 30 secondes. Une fois que ces patients avaient été identifiés comme nécessitant par exemple un conseil médical, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cadre de l'urgence qui nécessite l'envoi d'une ambulance, eh bien le temps d'attente pour bénéficier de ce conseil en lien avec le Covid pouvait effectivement être relativement long.
Et voilà, donc vous êtes dit on va trouver un moyen pour améliorer ce conseil médical et là moi je me suis connectée et on tombe sur un questionnaire.
Alors, dans cet outil, il y a effectivement deux parties. Oui, une première qui permet d'améliorer le flux, c'est-à-dire que L'outil répond avant tout à une problématique qui est une problématique de communication. Lorsque vous sortez d'une consultation, par exemple, avec un médecin, que ce soit une consultation téléphonique ou en présentiel, et qu'on vous demande ce que vous avez retenu, vous êtes capable de restituer à peu près 20 à 30% de l'information. Et on n'est pas sûr, évidemment, que dans ces 20%, donc une perte énorme de messages, on n'est pas sûr que figurent les informations essentielles. On sait qu'on est capable d'améliorer la compréhension de ces informations par le patient lorsqu'il y en a une trace écrite, c'est-à-dire qu'il est possible pour lui de les lire, en particulier et notamment dans sa langue. Donc le premier objectif de Régulette, c'était de transformer des consignes extrêmement longues dans le contexte du Covid et puis évolutives en plus,
oui,
d'une journée à l'autre.
Est-ce que vous avez des palpitations? Est-ce que vous respirez mal? Des questions très, très ciblées,
voilà, alors
pour
cet
pouvoir orienter.
C'est ça, cet interrogatoire était initialement réalisé par le médecin régulateur du SAMU et dès lors qu'il concluait que le patient n'avait pas besoin d'être hospitalisé, il délivrait par l'envoi d'un SMS, c'est-à-dire cette fois-ci sur un support écrit, l'ensemble des consignes liées au Covid qui étaient extrêmement longues. Alors, vous voyez que
Vous avez voulu réduire tout ça et le simplifier avec Régulaid.
Le simplifier et améliorer la communication en permettant au patient de prendre connaissance au calme sur un support qui est meilleur que la simple communication orale.
Alors comment ça se passe aujourd'hui grâce à vous?
À l'équipe qui a travaillé sur le projet. L'idée, c'est bien entendu maintenant d'étendre l'utilisation de l'outil à toutes les situations de conseil téléphonique. Les SAMU peuvent être amenés à conclure un appel téléphonique dans 20 à 30% du flux d'appels par un conseil téléphonique. Il y a plein de situations qui ne nécessitent pas une hospitalisation, un malaise sans gravité, quelqu'un qui se brûle, quelqu'un qui a de la fièvre. Dans toutes ces situations-là, le conseil téléphonique peut être optimisé par la délivrance justement écrite des consignes plutôt qu'un récit oral.
Et donc ça, c'est via Régulaid.
Voilà, et donc c'est ce qui est prévu maintenant, c'est de déployer Régulaid sur toutes ces situations, on va dire, routinières de l'activité des SAMU.
Pour laisser la place à des urgences vitales.
Alors, pour effectivement laisser à la fois du temps pour de régulation supplémentaire, donc pour les médecins, pour les urgences vitales, mais surtout pour améliorer aussi la communication et la compréhension de ce qu'on, jusqu'à présent, de ce qu'on disait exclusivement oralement à des patients, avec parfois les limites de la barrière de la langue. L'avantage de Régulaid, c'est qu'on peut communiquer dans autant de langues qu'on a traduit les consignes. Mm-hmm. En l'occurrence, une dizaine de langues dans l'état actuel des choses, ce qu'on n'est évidemment pas capable de faire en tant que médecin oralement.
Sylvain Lambert, notre coach.
C'est incroyable. Avec quels moyens vous avez fait ça? Et c'est-à-dire, est-ce que vous montez une structure? Est-ce que vous avez besoin de fonds aujourd'hui? Vous parlez de déployer, enfin, ou est-ce que c'est un projet?
Oui, parce que pour l'instant, c'est Strasbourg, c'est le SAMU Strasbourg.
Voilà. Alors, il y a un double objectif. Premièrement, donc, l'étendre aux situations routinières. Deuxièmement, le mettre à disposition gratuitement de l'ensemble des SAMU, puisque les problématiques sont les mêmes dans tous nos services. Alors, le développement initial s'est fait 100% bénévolement, c'est-à-dire qu'on a travaillé dans le cadre d'un marathon de l'innovation qui a été lancé par une société qui s'appelle Hacking Health, Health Factory, qui est une société qui, en fait, a décidé de mobiliser la communauté de l'innovation autour de projets destinés à améliorer la prise en charge des patients Covid. Donc, c'est une démarche qui a été lancée au mois de mars et qui a permis de travailler à distance en réunissant des professionnels de santé et leurs problématiques. Et puis donc des développeurs, des designers et des gestionnaires de projets. Donc tout ce monde-là a travaillé bénévolement pour, en quelques jours, donc jour et nuit, vous imaginez bien, vu la lourdeur de la tâche.
Et compte tenu du contexte.
Oui, et compte tenu du contexte, pour mettre sur pied la solution. Là où on est maintenant à la recherche de financement, mais avec un bon espoir de les obtenir de la part de l'Agence régionale de santé, c'est que le travail supplémentaire de développement que va nécessiter maintenant Régulaid pour justement déployer à l'ensemble des SAMU, gratuitement, il n'y a pas de sens à faire payer les SAMU, et routiniser l'utilisation de l'outil, c'est du travail supplémentaire du développement. Là, on est en dehors de la crise, on ne peut évidemment pas continuer à demander à des gens dont c'est le métier de travailler bénévolement.
Sophie, le Ségur de la Santé va s'achever dans les prochains jours. Le gouvernement a revu le montant d'enveloppes censées débloquer les rémunérations. Donc ça avance, on parle de l'hôpital de demain, mais ça touche aussi directement les rémunérations, c'est important.
C'est ça, oui, 7,5 milliards d'euros et c'est plus d'un milliard de plus que ce qui était déjà annoncé. C'est notre nouveau Premier ministre Jean Castex qui l'a annoncé hier lors d'une réunion avec les syndicats. C'est un nouveau pas du gouvernement vers les personnels hospitaliers. Maintenant, reste à savoir comment répartir cette somme, sachant que les syndicats réclament 300 euros net supplémentaires pour tous les agents. Il réclame aussi une hausse des effectifs depuis longtemps. Désormais, celles-ci sont également au cœur des discussions avec la création de 15 000 postes sur la table.
Ça vous parle, j'imagine, professeur Pelassia. Là, ça avance, il y a un avant et un après cette crise à tous les niveaux, à toutes les strates du monde médical.
Absolument, et l'après, c'est probablement cette reconnaissance si vous voulez, touchante, dont ont bénéficié les professionnels de santé au cœur de la crise, on voit avec le soutien de la population. Et puis, a posteriori, maintenant, dans une démarche de valorisation salariale, puisque c'est avant tout les conclusions du Ségur porteront avant tout sur cet aspect-là.
Valorisation salariale, mais on le voit aussi, création d'entreprise, parce que ça peut se professionnaliser. Oui. Là, vous nous disiez que c'était un projet bénévole dans l'urgence, mais peut-être que ça va se professionnaliser et ça se transformera en entreprise, si c'est possible.
Oui. Sans doute que dans un deuxième temps, ce qui va se passer, une fois que les revendications salariales, ce qui est en bon chemin, vraisemblablement, seront réaliser, c'est que à moyen terme, on peut imaginer que le Ségur, sous quelque forme que ce soit, participe de la transformation des hôpitaux et notamment de la transformation numérique. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte au décours de cette crise sanitaire que le fonctionnement dans nos services, c'est routinisé évidemment, ce qui est nécessaire au bon fonctionnement, mais surtout avait probablement peu évolué par rapport aux outils qu'aujourd'hui on peut utiliser pour aider notamment dans la prise de décision des professionnels de santé, des médecins. Donc, on a découvert, nous, avec cette communauté de développeurs, qu'on avait tout un tas de possibilités.
Vous avez tout un champ de possibilités pour davantage digitaliser et transformer.
Oui, et là si on a encore...
Allez-y, vous êtes en studio, alors vous pouvez.
C'est très gentil. Du coup, on est actuellement sur un autre projet, je vais aller très vite, qui, là aussi, vise à aider, en l'occurrence, les médecins régulateurs dans la prise de décision, grâce à des outils d'intelligence artificielle. On a pour objectif de créer là dans les 18 prochains mois un outil qui écouterait la conversation entre le médecin régulateur et un patient.
On va analyser la voix.
Voilà, alors on va analyser la voix parce qu'on va se concentrer sur une situation bien particulière qui est celle des patients qui appellent pour des difficultés respiratoires. C'est un motif très fréquent d'appel. Maladie
surtout avec le Covid, première question. Est-ce que vous respirez bien ?
C'était exactement ça, puisque c'était la première façon dont les patients décompensaient sur un mode grave. Mais les difficultés respiratoires peuvent renvoyer parfois à des pathologies qui sont beaucoup plus bénignes, comme des crises d'angoisse, et puis des pathologies qui sont extrêmement graves.
Et ça, avec votre système, vous allez pouvoir le mettre en place.
Alors, on aimerait qu'en fait, notre outil nous donne deux informations. Premièrement, en écoutant la voix de l'appelant, les bruits respiratoires, son débit de parole nous disent « voilà probablement quel est le taux d'oxygène qu'a ce patient dans le sang ». Et donc, c'est grave ou pas grave. Et voilà la probabilité qu'a ce patient d'avoir besoin d'une assistance ventilatoire à court terme. Et ça, c'est évidemment des éléments qu'on a plus de mal à apprécier en tant qu'être humain, surtout la saturation qui repose sur une mesure physique normalement.
Et ça, ce sera
on
possible.
On espère que la machine nous aidera à réaliser.
Et bien, on vous le souhaite aussi. Hein. Tout ça,
beaucoup.
Ce sera possible grâce à Reguled. Merci à vous, professeur Thierry Pelassia, d'être venu nous présenter votre plateforme et votre site internet Reguled. Vous êtes urgentiste et fondateur de Reguled. Merci.
Il est 13h44.
Europe 1.
À suivre, rendre le séjour à l'hôpital agréable grâce au sport. Ça s'appelle Oupi et son fondateur est avec nous. À tout de suite. Il est 13h45 sur Europe 1, la France bouge jusqu'à 14h avec vous Elisabeth Assayag et aujourd'hui on parle santé. On parle santé, imaginez-vous un parcours de marche autour de l'hôpital, un parcours de santé grâce à des exercices vidéo. Pourquoi ne pas utiliser l'hôpital comme un espace dédié au sport aussi ?
Pourquoi pas,
c'est très sérieux. Bonjour Olivier Lebleu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Hopi, H-O-P-Y. Alors Hopi, ça va sortir à la rentrée, le 15 septembre. L'idée avec votre plateforme, c'est que le moment passé à l'hôpital soit le plus agréable possible, que ce soit pour les soignants, mais aussi pour les patients, agréable grâce à l'activité physique.
Exactement. En fait, ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille avec le deuxième groupement hospitalier en France, qui sont les HCL, donc les Hospices Civils de Lyon.
Oui. Olivier Lebleu, est-ce que vous êtes là ? On vous écoute.
Oui.
Donc
vous
étiez en train de nous dire que vous étiez en train de travailler avec l'équivalent un peu de la PHP de Lyon, c'est ça, hein ?
C'est ça, en fait, la PHP de Lyon qui s'appelle les HCL, donc c'est le deuxième groupe hospitalier en France. Donc ils sont comme nous, en fait, on l'a encore plus vu pendant cette période de crise sanitaire récemment, c'est que l'hôpital est un lieu d'énormément de travail, de stress, de surmenage, bien entendu pour les personnes,
et
d'émotions pour les personnes, pour le personnel soignant. Et donc, en fait, on voulait apporter tous les bienfaits de l'activité physique de manière générale et du sport pour ceux qui veulent pratiquer un sport un peu plus poussé, on va dire, pour rendre les gens plus heureux à l'hôpital, pour améliorer aussi leur santé, parce que le sport, l'activité
on
physique
le sait,
peut
améliore la santé.
Exactement, améliore la santé, mais aussi pour les personnels hospitaliers, ça les rend à la fois plus créatifs et plus productifs.
C'est quoi? C'est une plateforme? C'est une entreprise? C'est quoi exactement comme structure?
Tout à fait. Hopi, c'est une application smartphone qui est dédiée donc au monde hospitalier. Et qui est édité par notre entreprise qui s'appelle Mile Positioning Solutions, qui est très connue en fait pour son application Running City, qui permet de découvrir plus de 200 villes dans le monde en courant.
Donc là, vous l'avez appliqué au monde de l'hôpital pour les employés, pour les patients, pour les accompagnants, avec des parcours de marche, des parcours de running autour de l'hôpital.
Exactement. On s'est servi en fait de notre compétence pour créer des parcours de marche et de running un peu partout sur la planète pour le faire beaucoup plus proche de chez nous. C'est-à-dire proche des centres hospitaliers qu'on a tous dans la plupart d'entre nous avons dans nos villes. Mmh. Et puis on y a ajouté des exercices supplémentaires comme ces parcours de santé au sein de l'hôpital. Alors
même,
pas dans les bâtiments.
Non
pas dans
autour.
Les bâtiments, mais dans les parcs, dans les parkings. On se sert en fait du mobilier urbain qu'il peut y avoir dans l'hôpital comme un banc, un poteau, une barrière pour faire des exercices assistés par vidéo. Et avec trois niveaux de forme différents.
C'est
et puis le dernier point, en fait, c'est la possibilité de faire des exercices de respirologie, d'étirement, de musculation légère à son bureau, dans son lit, ou tout simplement quand on est en train de parler avec un patient, par exemple, debout. Il y a tout un tas d'exercices qu'on peut faire pour rester en forme, pour s'assouplir, pour tout simplement avoir un peu plus de bien-être.
Et vous avez combien d'hôpitaux référencés dans l'application? Parce que si vous dites que vous utilisez un peu les équipements autour des hôpitaux, il faut les avoir tous référencés?
Alors tout à fait. En effet, on démarre avec les HCL, donc les 18 sites de l'hôpital, qui font le groupement des hôpitaux de Lyon, à partir de mi-septembre. Et petit à petit, en fait, on va référencer les autres hôpitaux de France. Pour apporter, parce qu'on fait vraiment des parcours sur mesure pour chacun des hôpitaux.
Là, c'est en test en ce moment à Lyon. Ça marche comment? Quel est l'accueil? Olivier Lebleu, vous êtes là? Non, on a perdu Olivier Lebleu, peut-être allons-nous le retrouver. Des hôpitaux qui innovent comme ça, il y en a énormément, hein, Sophie. Vous avez même trouvé, c'est pas du sport, mais tout de même un service de radiologie 2.0 à l'hôpital privé de Provence.
Oui, un hôpital équipé d'une salle hybride avec un système d'imagerie qui associe réalité virtuelle et chirurgie. En fait, grâce à un plateau technique équipé d'un capteur plan, un appareil de haute précision permet aux radiologues d'obtenir un haut niveau de détail. Et tout se fait de manière 100% numérique, c'est-à-dire que c'est fini, les enveloppes gigantesque avec ses grandes photos noires de notre anatomie. La technique évolue. Résultat, les patients peuvent même récupérer leurs clichés directement sur leur smartphone.
En tout cas, ça s'appelle Hopi, H-O-2-P-Y. Hein. Merci à vous, Olivier Lebleu. On reste ensemble. On parle hôpital de demain sur Europe 1. La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h. Elisabeth Assayag, aujourd'hui gros plan sur toutes les nouvelles solutions autour du monde de la santé.
Oui, et surtout l'hôpital de demain et la façon dont on communique, hein, avec notre médecin, avec les personnes qui travaillent à l'hôpital. Par exemple, quand on va chez le radiologue, on récupère ses clichés et ensuite on les apporte, ces clichés, aux médecins, souvent à l'hôpital. On a tous connu cette expérience en plusieurs étapes, aller faire la radio, prendre les clichés.
La taille des radios surtout,
voilà.
Ça rentre pas dans un sac à main.
Les apporter, et bien désormais il existe un service qui simplifie cette communication, tous les échanges entre patients, hôpital et médecins grâce à vous. Bonjour Franck Lehoué.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et le CEO de Lifen. Lifen, c'est une messagerie qui connecte les patients, les médecins et les hôpitaux. Ça existe depuis quand même 5 ans et ça marche très très bien.
C'est ça. Donc en effet, on aide les hôpitaux et les médecins à digitaliser leurs interactions avec les patients et les autres praticiens, et c'est quelque chose qui est assez compliqué en fait. C'est plus compliqué que ce qu'on imagine, déjà parce que c'est assez régulé, c'est-à-dire qu'en fait envoyer un email c'est interdit parce qu'on échange la donnée de santé.
Mais ça veut dire quoi envoyer un email? Parce que moi j'ai déjà reçu des emails d'hôpitaux.
Alors exactement, mais en fait ils ont pas le droit en théorie de vous envoyer des données médicales sensibles.
Ah,
parce que,
mais c'est quoi une donnée médicale sensible? C'est m'envoyer une ordonnance, m'envoyer une radio, c'est quoi?
Alors vous voyez, c'est ça, tout ce qui concerne votre dossier médical, en fait, ça doit être sécurisé de bout en bout.
Mais les résultats d'analyse de sang, par exemple, on les reçoit par mail?
Alors en fait, normalement, vous les recevez, si vous les recevez soit donc par papier, vous allez recevoir
aller
à votre laboratoire.
On voilà. a un code via
si,
une plateforme.
Si vous allez sur
labo.
Une plateforme sécurisée, ouais. voilà, vous avez un code et normalement, vous avez plusieurs codes. Vous avez un login mot de passe, vous avez aussi un code comme un usage unique sur votre téléphone, par exemple, qui vous permet de sécuriser la et donc de faire en sorte que vos données ne sont pas disponibles à n'importe quel hacker qui viendrait.
Confidentiel.
Donc, exactement. Donc c'est quand même assez sensible et donc il faut mettre les bons garde-fous pour que elle soit pas hackée par n'importe qui et qu'elle soit pas revendue ou etc. Voilà. Donc ça c'est.
Donc vous intervenez là-dedans. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer une radio à un médecin, un cliché via votre plateforme.
Alors c'est ça, c'est tous les résultats d'examens divers, tous les conclusions de tous les comptes rendus opératoires, résumés d'hospitalisation,
oui, pour renoncer à la fameuse petite lettre blanche qui est fermée. Nous le patient, on n'ose pas regarder, mais on doit la porter consciencieusement.
C'est ça. Et du coup, ça permet de beaucoup mieux se coordonner. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, quand on sort de l'hôpital, souvent le patient va avoir son médecin traitant dans les 5 jours qui suivent.
Avec l'enveloppe blanche, oui.
Et si le médecin traitant n'a pas reçu en fait le compte rendu de l'hôpital avant, bien souvent le patient il parle avec ses mots, il dit voilà mais j'ai oui. pris le médicament bleu, voilà. Et le médecin il n'est pas capable vraiment de prendre la suite. Donc ça c'est des gros problèmes potentiellement de coordination et donc il faut fluidifier tout ça.
Et vous le faites avec l'iPhone, l'iPhone, ça s'écrit
exactement, l'iPhone. Avec l'iPhone, voilà, on dit l'iPhone, ouais, c'est plus ça.
C'est quoi votre modèle économique, en fait?
C'est un modèle d'abonnement pour les praticiens qui l'utilisent, également pour l'hôpital qui nous paye à l'usage. Et en fait, ils ont un intérêt financier assez important, puisque aujourd'hui, ils envoient beaucoup de courriers postaux et ça coûte cher. Et donc, on vient finalement remplacer les envois postaux par des envois digitaux qui donc forcément coûtent moins cher.
Est-ce que les patients ont accès à cette communication entre l'hôpital, le médecin, le radiologue? Est-ce que nous, on peut intervenir en tant que patient?
Alors, bien sûr, vous pouvez... en fait, on fait rien sous le capot. C'est-à-dire que si l'hôpital ou le médecin veut vous envoyer un document à vous en tant que patient sur la plateforme électronique, il peut bien sûr, ouais.
Sophie,
il y a combien de médecins actuellement qui utilisent l'iPhone?
Il y a à peu près 20 000 médecins. En fait, on est présent dans beaucoup d'hôpitaux publics. On doit être dans 20% des hôpitaux publics. Donc, pour citer quelques références, on est au CHU Strasbourg, CHU d'Angers, CHU d'Orléans, à Tours, à Nice, etc. Et on déploie pas mal d'autres hôpitaux en ce moment. On est aussi présent dans la médecine libérale. Par exemple, on est déployé dans tout le réseau de cliniques du groupe MC Santé, qui est le plus gros réseau de cliniques en France. Il y a, je crois, même plus de 80 cliniques. On déploie également d'autres réseaux de cliniques comme Elsan, etc.
Il y a eu beaucoup plus de demandes avec la crise. Le Covid a changé quelque chose par rapport à votre entreprise?
Ah ouais, c'est clair qu'il y a un regain d'intérêt qui était déjà fort, mais ça s'accélère énormément. Par exemple, typiquement, le fait que la téléconsultation soit développée, ça veut dire que le patient n'est pas forcément plus en face du médecin, et donc quand il faut lui envoyer un document de manière sécurisée, évidemment, on a envie de moyens techniques pour le faire. Il y a aussi en fait toute une démarche de l'hôpital, je pense, à beaucoup plus pris compte le fait que voilà, le digital va changer les choses.
C'est ce qu'on voit depuis le début de l'émission.
Je donne juste un exemple, et ça c'est quelque chose qu'on voit sur le terrain. C'est-à-dire que quand on arrive à l'hôpital, typiquement on arrive au bureau des admissions, voilà, c'est un bureau où finalement on va remplir de ces papiers administratifs, etc. En période de pandémie, on n'a pas envie que tous les patients attendent bêtement dans la même salle d'attente et seulement se contaminent. Quoi. Et donc si on peut digitaliser ce parcours-là, un, on fait gagner du temps au patient qui va directement aller dans le service concerné. Deux, on évite les problèmes de contamination. Trois, on fait des économies parce que peut-être qu'on va améliorer le process en interne. Donc c'est des démarches
ce sont des démarches qui vont faciliter et fluidifier la communication entre les patients et les soignants. Merci à vous, Franck Loewe, le cofondateur et le CEO de Leafen. Merci Sylvain, à demain.
Merci, à demain.
Sophie, merci. C'est la fin de notre émission. Nous parlerons demain de la Convention citoyenne et nous mettrons en avant les initiatives qui les ont inspirées. Et là, on va encore vous montrer que la France bouge, même pendant l'été. Anissa.
À demain, c'était Elisabeth Assayag.